Claude, ce matin, on parle de la Bretagne.
La Bretagne, où, me dit le Figaro, chaque fontaine, chaque champ portait un nom breton, un nom de toujours. Oui, mais les noms se perdent. Et la Bretagne semble, ce matin, réfugiée chez une vieille dame du hameau de Kerguiriou, commune de Telgruc, presqu'île de Crozon. Elle s'appelle Françoise et se souvient de tout dans sa maison trapue battue par le vent. Un univers, me dit le Figaro, enchanté de souvenirs, de traditions et de mythologie, de mémoires de paysans, de pêcheurs, de chansons qui se cachent sous le moindre brin de bruyère. La route 10, la ville de légende, le Maine, un diaoul, le rocher du diable, on y trouve encore la trace des cornes du démon. Un jour, me dit le Figaro, Françoise a appris que près de chez elle, une rue allait s'appeler rue des fous de Bassan et une autre impasse des pélicans. Elle a trouvé ça rigolo. On aurait pu mettre la Nargouennec, au moins on aurait su où on était. Et depuis, en Bretagne, la guerre fait rage entre les défenseurs de la langue et d'un cadastre breton codifié au temps de Napoléon. Et en face, le maire de Telgruc qui voit un avenir de lotissement aux rues claires au nom de folklore, compréhensible et français. Des grands navigateurs, Artaud, Collat, Tabarly, une rue du Moulin et donc des noms d'oiseaux. Je vous laisse lire le Figaro au chevet d'une identité blessée dans le grand vortex de la mondialisation, mais elle est aussi sur les sites de Ouest-France et du Télégramme, où depuis le printemps dernier, l'affaire est relatée. C'est leur métier à ces journaux d'être breton. En septembre, le président de la région Bretagne avait écrit au président de la Poste, lui demandant s'il était vrai que c'était son administration qui était responsable de l'aseptisation des rues, les postiers ayant besoin de pélicans pour s'y retrouver. Pas du tout, a répondu la Poste. Elle s'est délivré le courrier, également en breton. Suis-je rassuré? Je lis dans l'Obs l'interview d'un écrivain et philosophe qui pourrait consoler la Bretagne. Il s'appelle Vincent Delecroix. Un de ses romans s'appelle « Ce qui est perdu ». Son dernier livre s'intitule « Apprendre à perdre ». Et il nous enseigne la force des fantômes qui habitent notre monde et lui donnent son poids. Fantômes des êtres aimés, présents, absents, avec lesquels il faut parler, tels les poètes qui, par un rameau d'or magique, avaient accès au royaume des morts. Cela parle aussi, je pense, d'un chemin breton. Je lis dans le Télégramme encore que les Bretons ressemblent aux Chinois. Voilà deux peuples tenaces qui savent l'économie et qui se nourrissent de passé, me dit une belilloise d'adoption, experte de la Chine. Bretons et Chinois aiment qu'on s'intéresse à leur culture et à leur manière de faire. Un rameau d'or compris. Dans les Échos Magazine, je lis que la Chine est la terre, ou plutôt l'eau du caviar. Les eaux du lac Qiandao abritent les restes d'une ville engloutie de la dynastie Tang, mais aussi des centaines de bassins où prospèrent des belugas, dont un seul peut contenir en eux le prix d'une Ferrari. Dans l'Écho républicain, ne pas confondre, je découvre que l'identité farouche est aussi eurélienne, puisqu'on m'invite à organiser mon prochain réveillon uniquement avec des produits de l'Eure-et-Loire. Truffe nougat et patates douces de Beauce, escargot et cidre du Perche, boudin blanc de dinde de Nogent-le-Fay, fleurs comestibles, pélargonium, pensée viola de Tremblay-les-Villages, limonade la Beauceronne de Janville et une bonne tisane de la ferme de Châtaincourt. Il faut cela.
C'est pour le lendemain. Merci. Claude, on parle aussi de médecine.
Et c'est une autre identité, celle de Montpellier où hier, nous a dit Midi Libre, ont été lancées les festivités des 800 ans de la faculté de médecine la plus vieille du monde. La faculté est aussi, vous verrez, un bijou de musée, pièces d'anatomie, manuscrits médiévaux, dessins de Rubens, Titiens, Fragonard, parlons aux fantômes. Mais la médecine est aussi d'aujourd'hui et vertigineuse. À Paris, à Nantrin sous Grenoble, me dit le Parisien, on commence à utiliser un implant de la taille d'un petit pois que l'on introduit par la cuisse dans le corps de bébés prématurés qui ne pèsent même pas un kilo. On le fait remonter cet implant par les vaisseaux sanguins jusqu'au cœur où ils viennent réparer le trou du canal artériel qui empêche le bébé prématuré de bien respirer. À la une du Point, autre science. Vous verrez une femme aux yeux verts de miel, aux lèvres pleines, au piercing en eau de bête. Ses cheveux sont ramassés en rue de Tresse. Elle a 20 ans, elle a 20 000 ans. C'est une femme reconstituée par la paléo-artiste Elisabeth Daine, une femme qui aurait vécu chez nous en Dordogne. Son regard inaugure un dossier fouillé sur nous, sapiens, notre grande histoire, numéro double pour les fêtes qui tiendra jusqu'à l'an 9. On y parle avec nos fantômes encore, c'est rudement bien. À propos de fêtes, je lis dans le Figaro que le cours du sapin de Noël Made in Québec s'envole à New York. 1 000 $ les plus beaux, car on produit moins de sapins aux États-Unis. L'Oregon, où il poussait, est passé au cannabis.
Et des femmes, pour finir, Claude.
Aussi fascinante, Nicolas, qu'une belle préhistorique et de plus lestée de cause. Femme peintre du XVIe siècle, Sofonisba Anguissola et la Vigna Fontana, que l'on réhabilite à Madrid dans une exposition dont Libération me rend compte, elles furent oubliées par la faute de leur sexe. Anguissola, conviée à la cour du roi d'Espagne Philippe II, était officiellement dame de la reine et ne pouvait pas signer les portraits qu'elle réalisait. Mais tout revient. Femme, objet, icône du XXe siècle, qui il y a 50 ans chantait 69 années érotiques, Jeanne Birkin, qui se raconte au travers des hommes dans le magazine du Monde quand elle était ravie d'être l'objet du désir de Serge Gainsbourg. Publiant un nouveau tome de son journal, elle se revisite au regard de ses filles, de sa petite fille féministe, tout a changé. Mais dans les théâtres encore aujourd'hui, les fans lui demandent des autographes sur des photos d'elle à poil, venues de lui, trouvées sur internet, vite imprimées. Elle signe sur les seins, sur les fesses, qui était ce qu'elle était. Marianne, j'en termine cette semaine, revisite et contredit l'enquête de Mediapart et les accusations d'Adèle Haenel contre son premier metteur en scène, Christophe Ruggia, qui s'exprime dans ce dossier. Le ressenti de l'actrice n'est pas remis en cause, mais les témoignages tiennent moins bien. C'est un dossier qu'on pourra juger contraire à la marche du monde et au progrès. C'est évidemment une raison de plus d'aller le regarder.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.